Bonsoir à tous, bonsoir pour les petits retardataires. Au fond, on va terminer le jeu Bélène. Oui, c'est fini. Non, tu n'as plus de mots. Non, c'est fini. Voilà, Sonia, c'est pareil. On retourne à sa place. Bonsoir à tous et bienvenue aux Écrits Polissons sur les lettres à mon utérus. Alors, c'est un ouvrage qui a été dirigé par Malène Schiappa et qui a interrogé 18 femmes différentes qui sont journalistes, auteurs de littérature érotique ou chanteuses ou artistes de façon beaucoup plus large et qui ont toutes écrit une lettre drôle, émouvante, touchante à leurs utérus. Alors, pour vous rappeler, on va faire le petit moment biologie de la soirée.
Non, je mets là.
Voilà, c'est ici, sauf que lui, il a une petite excroissance là. Donc, voilà.
T'enregistres ma vie.
Alors, oui, juste petit rappel, il y a MOOV maintenant. Il y a MOOV, la chaîne de radio, qui va faire un enregistrement de la soirée ce soir. Si vraiment, vraiment, vous ne voulez pas que votre voix, elle soit entendue, vous vous mettez tout au fond de la salle et vous prévenez Florence, elle est très sympa, et vous lui dites, écoute, ne ramène pas ton micro, va-t'en avec ton micro, voilà, comme ça. Vous faites un petit mouvement de la main, elle va comprendre. Voilà. Non, mais on va entendre que votre voix, il n'y a rien de mal. Soyez naturel, soyez vous-même et tout se passera bien. Alors, l'utérus, c'est cette partie-là. Hein. Ici, nous avons donc le vagin et l'utérus, c'est cette partie-là. C'est une plus... Oh, ben oui, personne ne voit. Voilà, ici, c'est un... Donc, c'est en fait un organe qui a surtout un rôle dans la reproduction. C'est pas un organe qui est forcément très, très érotique. Et on le sent dans toutes les lettres, c'est-à-dire que les femmes en parlent souvent pour parler de leur grossesse ou parler de leurs règles. Parce que les règles, en fait, sont dues à l'endomètre, qui est cette partie-là qui va se détacher, en fait, de la paroi et couler et puis provoquer les règles. Donc, si vous voulez, l'utérus, c'est sympa parce que ça permet de procréer, mais ça nous crée aussi beaucoup de problèmes à nous, les femmes. Et les filles le décrivent très bien dans leurs lettres. Donc ce soir, nous accueillons... Merci pupitre. Ce soir, nous accueillons Octavie Delvaux et Julien Palombe. Vous pouvez vous lever, les filles. Pas trop pour l'ampli, ok. Alors, Julia Palombe, qui est une artiste chanteuse de rock érotique, et Octavie Delvaux, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, notamment pour la Musardine, et qui a notamment été l'auteur d'un best-seller qui s'appelle Sex in the Kitchen et Sex and the TV. Sex in the Kitchen et Sex and the TV. Voilà, c'est ça. Alors, les filles, je voulais vous poser une question. J'ai lu vos deux lettres. Comment vous avez réagi lorsque Malène Schiappa vous a demandé d'écrire une lettre à votre utérus ?
Pour ma part, ça a tombé au meilleur moment possible, puisqu'elle me l'a demandé à un moment où je devais être à un mois de grossesse, je crois. Donc à un moment assez crucial pour l'utérus, puisque c'est vraiment le moment où il justifie son existence. Et où il va lui arriver diverses choses et il va prendre un rôle de plus en plus important. Donc je lui dis, oh, super, ça tombe vraiment très très bien, je suis enceinte, oh bravo, félicitations, etc. Et j'ai commencé ma lettre. À ce moment-là de ma grossesse, tout allait bien. Donc c'était une lettre pas forcément sympa déjà, hein, parce qu'on avait eu quelques soucis ensemble. Enfin, bon, j'étais un peu traumatisée, bref. Donc déjà, le ton n'était pas sympa. Et puis, j'en venais au moment de ma lettre où j'écrivais. Et puis, j'ai décidé de faire un bébé. Et là, bon, je me suis arrêtée, puisque finalement, je ne savais pas ce qui allait se passer, comment allaient tourner nos relations avec cet utérus. Je n'avais pas particulièrement de nouvelles de Malène. Alors, je l'ai laissé un peu en plan. Et puis, quand elle m'a recontactée, j'avais accouché. Donc, j'avais eu... Encore des aventures et des mésaventures avec ce cher utérus qui m'a permis de terminer la lettre d'une façon aussi amère, aussi vindicative que je l'avais commencé, puisque mon cher utérus ne s'est pas vraiment bien comporté. Ça a été un sacré coquin, je l'appelle mon meilleur ennemi dans la lettre, puisqu'on ne peut nier qu'il m'a rendu quelques services, il m'a donné un fils, il l'a abrité en son sein, etc. Mais qu'est-ce qui m'en a fait baver ? Il n'a pas arrêté de la ramener de toutes les façons possibles. Donc c'est un peu ce que j'écris dans ma lettre, en le traitant de gros connard, hein, à un moment, puisque c'est un peu ce que je pense, quoi. Mais je le pense, allez, soyons sincères, je le pense comme on peut traiter parfois son amoureux de gros connard en riant. Dans le fond, je ne déteste pas totalement. Voilà.
Moi, j'ai eu Marlène, bon, c'était, je me souviens, à peu près aux vacances de Noël 2014. Alors, j'étais en vacances à la campagne, j'ai trouvé la proposition rigolote, curieuse, alléchante. J'avoue que ce qui m'a vraiment plu dès le départ, c'était l'idée d'un recueil collectif. Je trouve particulièrement géniale l'idée de se mettre plusieurs nanas sur un livre. Ou ailleurs, d'ailleurs. Pardon. Et puis donc, je me suis dit que c'était... Bon, voilà, donc cette idée-là me plaisait énormément. Je fais partie de ces femmes qui pensent que la sororité doit revenir en force dans notre société. Et puis, alors après, cette histoire d'utérus, il se trouve, par le hasard, que moi, j'avais publié un petit recueil de poèmes en 2010, qui s'appelle « Conversation avec mon enfant », et qui était déjà une relation entre moi et mon utérus, puisque j'inventais un faux dialogue, mais bon, un dialogue avec mon enfant intra-utérus. Donc j'avais déjà cette connexion qui était pour moi encore évidente à l'esprit. Mais enfin, là, il s'agissait quand même de parler à son utérus vide, puisque je n'étais pas enceinte quand Marlène m'a proposé d'écrire. J'ai écrit la lettre d'entrée, je l'ai à peine relu, en fait, et ça a été assez simple pour moi. Je crois que j'avais... Alors donc, j'étais déjà maman, bien sûr, puisque j'ai un enfant de 6 ans. Et alors, c'est vrai qu'on me dit, et la Flore l'a dit à demi-mot tout à l'heure, mais c'est incroyable, tu dis les choses comme ça, tout ce qui t'arrive avec ton utérus, t'as aucun... Il n'y a pas de pudeur, alors... Bon, je ne sais pas si c'est de la pudeur ou de l'impudeur, mais c'est vrai que je n'ai pas du tout eu peur, en tout cas. J'ai trouvé ça très naturel de parler de mon utérus. Même si j'ai bien conscience que c'est un sujet tout très, très intime, je ne suis pas étonnée de voir que certaines lectrices le trouvent encore plus intime que des lettres érotiques.
Il
faut qu'il chauffe.
Donc ma deuxième question, c'était par rapport à vos récits érotiques que j'ai déjà lus auparavant, j'ai trouvé cette mise à nu sur votre utérus, un organe qui est vraiment encore plus interne que la sexualité, qui peut être un peu plus externe que ça, beaucoup plus intime, beaucoup plus touchante et même beaucoup plus dérangeante, voire gênante, que la littérature érotique au final. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ? Est-ce que c'était une mise à nu qui était plus difficile que vos textes érotiques ?
Moi, j'ai pas l'impression que c'est plus difficile, mais je suis assez d'accord sur le fait que c'est évidemment plus interne. Donc, c'est vrai qu'on va aller parler, à un endroit de nous qui est très profond. On le voit, il faut passer par le vagin pour aller dans l'utérus. Donc, c'est vrai que moi, je trouve vraiment que l'utérus, c'est l'organe de la maternité. Mais en même temps, vu qu'il est juste au-dessus du vagin, on a aussi envie de... Ça se mélange aussi, je trouve, quand même, avec la sexualité. C'est pas complètement éloigné. C'est une autre facette. Mais bon, de toute manière, moi, j'aime me mettre à nu. Alors, vous voyez, ça m'a pas dérangé.
Ma réponse va plus ou moins rejoindre celle de Julia. Je dois dire que l'exercice de la littérature érotique est déjà multiple. On n'écrit pas toujours le même texte érotique. Parfois, on s'implique plus que d'autres. Quand je suis dans la fiction la plus totale, je m'implique moins. Quand en viennent les scènes de sexe, j'y mets forcément un peu de moi-même parce qu'il y a des choses qu'il faut avoir vécues pour bien les décrire. Mais ça s'arrête là. Et puis, il y a d'autres textes qui sont plus intimes. Mais j'ai plaisir à les creuser dans cette intimité et à l'écrire en sachant que ça va être lu. J'ai jamais eu de blocage avec ça, au contraire, un peu comme Julia, j'en éprouve une certaine, pas une jouissance, mais une certaine joie, en fait. Et donc, ça m'a même pas effleuré l'esprit que ce sujet puisse être tabou. Je dois avouer que quand Marlène a commencé à faire la promotion du bouquin sur Internet et sur Facebook, quand elle a commencé à parler de ce tabou qu'on avait brisé, nous, femmes courageuses, je me suis sentie un peu éloignée du propos parce que bon, j'avais écrit une lettre à mon utérus. Oui, bon, bah d'accord. Dans mon dernier recueil de nouvelles, j'ai aussi décrit une partie de jambes en l'air de mes parents, quoi, de mes propres parents. Donc, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Je voyais pas le souci. J'ai bien conscience que c'est un organe interne que moi-même, je méconnais. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu par des échographies. Je ne sais pas exactement à quoi il ressemble, s'il est plus gros, plus mince, plus je ne sais pas quoi que celui d'un autre. On n'a jamais été présenté d'une certaine manière. Mais pourquoi pas ?
Est-ce qu'il n'y a pas aussi encore cette histoire de maman et de putain, finalement ? Parce que j'ai l'impression, et c'est ça aussi peut-être des fois qui questionne quand c'est Octavie ou moi qui écrivons, puisqu'évidemment, à travers mes chansons, à travers ces romans, on écrit beaucoup sur le sexe, en tout cas on questionne le désir de maintes façons. Et là, tout à coup, c'est les mamans qui apparaissent. Alors bon, moi, je suis vraiment... Vous savez que c'est mon vrai nom. Je suis née sous le nom Julia Palombe et je me produis depuis sous ce nom-là. J'ai jamais séparé la maman et la putain, mais je me rends compte que c'est pas une chose qui est évidente encore. Et je crois qu'il est plus là, le tabou, si je peux... J'ai l'impression qu'en fait, il est là. C'est-à-dire qu'on est encore et toujours, mais c'est incroyable, on est encore dans ce problème de pouvoir assumer la femme entière et qui a plusieurs facettes. Voilà.
Oui.
C'est surtout la femme qu'on montre pas, c'est-à-dire c'est la femme qui a ses règles, c'est la femme qui est enceinte, c'est la femme qui a des problèmes comme l'endométriose. Donc c'est cette femme en fait qu'on ne veut pas voir, qu'on montre pas. La femme qu'on veut voir, elle a pas de poils, elle est toute lisse, elle a juste un vagin, elle a juste un trou, elle a sûrement pas d'utérus, elle a sûrement pas de sexualité. Donc c'était peut-être une façon de choquer de cette façon-là.
Je l'ai pas ressenti comme telle. C'est certain qu'en écrivant cette lettre, je me suis dit. Si des lecteurs de mes fictions me lisent, je fais en quelque sorte mon coming out de maman, quoi. Parce que bon, je parle pas de mon fils ou de ma famille sur les réseaux sociaux, au même titre que si je me présentais comme chef d'entreprise, j'en parlerais pas, parce que je distingue le boulot de ma vie personnelle. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois dans l'érotique ou etc. Du coup, c'est vrai que ça m'a interrogée. Je me suis dit, ça va peut-être leur faire un drôle d'effet, ceux qui m'imaginent tous les soirs lovés sur des divans avec des hommes qui me lèchent les pieds, un autre qui m'éventre, un autre qui me lèche les seins. Ils vont se dire, ah mais en fait, elle a eu un bide énorme. elle a accouché, elle avait les pieds dans des étriers, elle pissait le sang. Enfin, voilà quoi, c'est juste une maman. Bon, bah oui. Mais c'était pas grave, ça fait partie du jeu, quoi. On est des femmes avec tous ces aspects réunis.
En tout cas, c'est très bien de réunir ces deux facettes-là, comme tu as dit, la maman et la putain, dans ce bouquin. Vous avez pu lire les lettres qui étaient posées sur les tables ? Oui, certains. Est-ce que vous avez des questions ? Hugues ? Non ? Mais tu l'as lu, c'est déjà bien. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, globalement, sur ce qui a été dit ? Maxence, t'as toujours des questions, fais pas genre. Ah oui, t'es arrivé en retard, c'est pour ça. Personne n'a des questions sur l'utérus. Donc vous avez tous de très bonnes relations. Oui ?
Pas sur l'utérus, sur cette dualité de la femme, la sainte et la putain, en fait. Parce que moi, je l'ai rencontré à travers des amis discours d'hommes qui ont cette déconnexion, c'est-à-dire des fantasmes pour une femme et puis la projection d'un amour idéal avec une autre femme, en fait. Et qui ne peuvent pas imaginer que ça puisse être la même, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont se masturber devant du porno, mais après, ils vont avoir des fantasmes complètement différents avec leur propre femme. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi que certaines femmes vivent ou c'est un problème typiquement masculin, vous pensez ?
Bah, déjà, merci de poser cette question parce que je trouve qu'elle est très intéressante. D'après ce qui me revient dans ma démarche, dans mon expérience, je trouve que ça vient aussi des femmes. Les femmes ont toutes leurs responsabilités dans ce problème de ne pas encore avoir la maman et la putain réunies. Parce que c'est pas seulement les hommes qui disent je vais pas me faire faire une fellation par la femme qui embrasse mes enfants, comme j'ai pu l'entendre. Pas avec cette même bouche qui embrasse mes enfants. Mais ça, oui, mais ça existe encore et de nos jours. Et je le pointe pas du doigt, je remarque juste que ça existe encore. Mais les femmes, il y a aussi un problème pendant la grossesse et après, donc quand elles deviennent maman, elles ont aussi du mal, il faut dire la vérité, elles ont aussi du mal à garder leur statut de femme amante, de femme sensuelle. Moi, ce que je dis toujours, c'est faire un enfant, ça ne t'enlève rien. C'est une petite chose en plus. Enfin, c'est une petite chose merveilleuse, très vivante et avec tout ce que ça comporte. Mais c'est quelque chose en plus. C'est pas quelque chose en moins. C'est pas quelque chose qui doit te déconnecter de ta sensualité. Je crois que c'est encore bon de rappeler aujourd'hui, notamment aux jeunes femmes, hein, qu'on reste une femme. Et ça, c'est quelque chose qui est pas encore bien acquis. Mais aussi parce que peut-être on voit nos mamans, on a peut-être pas. Moi, j'ai été élevée par une mère très 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 libre, elle a fait 5 enfants et elle a continué à être très sensuelle.
Toujours la question de Maria, et je voulais vous poser la question sous un angle différent. On a tous entendu parler de ce dilemme, la femme maman, la femme putain, et c'est vrai ce qu'il a dit sur les hommes. Mais plutôt que de questionner l'état des choses, est-ce que les femmes sont comme ci, plus que comme ça, est-ce que les hommes pensent à elles comme ça, est-ce qu'ils sont eux-mêmes ces différentes choses. Est-ce qu'on questionne le rythme du changement? Parce qu'en fait, il y a un musicien ici. Si vous...
Moi aussi.
Dit tout à l'heure.
Moi aussi.
Si par exemple, les femmes étaient tout ça, toutes, en même temps, mais pas au même moment, ça voudrait dire qu'il y a une question de temps, de tempo, de rythme. Donc il y a un moment où une femme peut être maman, mama. Un moment où elle peut être putain.
Ah ben c'est même le seul moyen, mon chéri.
Oui.
Elle peut pas être en même temps maman, putain. Bah, je veux dire, tu peux pas difficilement te faire enculer pendant que tu donnes à manger. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est pas possible.
Justement,
ben oui, mais c'est ça qu'on questionne.
La question,
c'est le tempo.
La question que je pose, voilà, c'est à quel rythme ces changements ont lieu vis-à-vis des femmes et à quel rythme vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une grande différence de rythme. Il parlait de se masturber devant du porno ou d'aller voir une maîtresse. On considère comme la putain ultime. Et de rentrer à la maison pour considérer autre chose comme type de femme. En fait, les hommes, très souvent, mettent du temps et mettent une distance entre ces deux faits. Et on dit souvent que les femmes arrivent à faire plusieurs choses à la fois. Alors, on pourra en reparler. Mais en fait, est-ce qu'elles ne changent pas tout simplement plus vite ou à un autre
Alors,
rythme?
Alors, moi, je vais te répondre et je laisserai après Octavie répondre là-dessus. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je fais pas de différence genrée en ce qui concerne le désir. J'en ai un petit peu marre qu'on mette de côté le désir de la femme et puis de l'autre le désir de l'homme. On est tous des humains et les femmes sont des hommes comme les autres. Et le désir, c'est lui qui est fluctuant. Et ça, je le dis souvent et je le répète encore là ce soir, c'est très important de se rendre compte que le désir n'est jamais figé. C'est une chorégraphie, c'est une danse, c'est une chanson, c'est une musique. Et donc à partir de ce moment-là, bien sûr qu'il y a des moments qui sont plus érotiques que d'autres, où on est plus dans la maternité, où on est plus dans... Et l'homme, pareil, il se révèle aussi papa. Mais c'est juste que c'est pendant toute la vie comme ça. Il n'y a pas de changement. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir se considérer autrement que dans une case. Alors, je suis enfant jusqu'à 18 ans, et puis je suis adulte, et puis je suis sexuée, et puis je suis maman, et puis je ne sais pas quoi. Pour moi, ce n'est pas tout à fait comme ça. Je pense que la solution, elle est d'en considérer, mais dès le plus jeune âge, hein, moi je milite pour ça dès le plus jeune âge, c'est-à-dire je pense qu'on a une éducation sensuelle à faire avec les enfants pour que justement on soit des êtres sensuels et on grandit, puis notre sensualité, elle évolue. Ça n'a rien à voir avec femme, homme ou quoi que ce soit. Mais bon, en l'occurrence, vu qu'on parlait de la femme et la putain, c'est vrai qu'on a insisté sur la femme, mais je vais laisser Octavie.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et aussi sur l'aspect éducationnel des choses. Là, on parle d'une catégorie d'hommes que, pour ma part, je ne connais que qu'à travers des témoignages. C'est-à-dire, on m'a dit, des hommes pensent comme si, j'ai lu des textes, bon, un tel m'a dit que... Mais, personnellement, je n'en ai jamais rencontré. Quand je dis rencontré, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de long entretien avec un homme qui m'exposait les choses de cette manière-là. Donc, je ne suis pas persuadée non plus que ces hommes-là soient aussi nombreux qu'on veut le penser ou le dire. Le père de mon fils et je pense le père du fils de Julia ne sont pas du tout comme ça. Je me souviens par exemple que ma propre grand-mère a déconseillé jusqu'au dernier jour à mon cher étendre d'assister à mon accouchement. Et lui, impartial... Non. Mais vous ne vous rendez pas compte, enfin. Vous allez voir votre femme dans un état. Après, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je me souviens, quand j'étais commerçante, j'ai eu un client. Voilà, il me disait qu'il n'arrivait plus à faire l'amour avec sa femme depuis. Là. Voilà, placide, il assistait à l'accouchement. Et je lui ai demandé, alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Il m'a juste dit, c'était merveilleux, je me souviendrai toute ma vie... cette petite touffe de cheveux qui émergeait de ton ventre. Et je lui ai demandé de me parler vraiment sincèrement. Et je lui ai dit, ça t'a dégoûté? Il m'a dit non. Et est-ce que ça m'a amoindri? Il m'a dit non, absolument pas. Et est-ce que tu me désires? Il m'a dit oui. De la même manière, oui. Donc, et c'est pas Dallas, quoi. C'est pas une série, c'est pas inventé. C'est un vrai homme qui n'est pas plus extraordinaire qu'un autre. Donc s'il est capable de ça, beaucoup d'hommes en sont capables, je pense. Il faut juste prendre exemple... Sur ce genre de personnes qui, je crois, en fait, se posent moins de questions et n'interrogent pas sans arrêt la question du genre, est-ce que je suis bien un mec si je pense comme ça, est-ce que je suis... Il y a de ça aussi. Est-ce que je dois me comporter comme ça si je suis un homme? Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'interdiction si on est un homme ou si on est une femme. On peut avoir peu de désir quand on est un homme, on peut avoir beaucoup de désir quand on est une femme. Et ça peut aussi durer toute la vie. Hein. Voilà.
Merci beaucoup Octavie et Julia. Juste, vous avez des actualités, je crois, toutes les deux en ce moment. Octavie, tu viens de sortir un livre?
Oui, tout à fait.
Qui s'appelle,
d'aller le chercher. Il est tout frais, mais alors super tout frais sorti de l'imprimerie. Voilà. Un recueil de nouvelles qui m'est fort cher, à cœur pervers. C'est une anthologie de textes amoureux et pervers que j'ai ordonné.
Il n'y a pas à écrire, c'est vrai.
Non.
À la musardine.
J'ai séparé en deux parties, Eros et Thanatos, donc... La pulsion amoureuse et la pulsion de mort qui sont très souvent imbriquées dans les rapports amoureux et sexuels. Donc si vous vous interrogez sur ces questions, si vous voulez juste vous évader, parce qu'il y a beaucoup de ça dans ma plume aussi, faire voyager le lecteur sur tant dans l'espace que dans le temps et dans la fantasmagorie, eh bien, je vous conseille vivement la lecture de ce recueil. Qui me tient beaucoup à cœur, et pas seulement parce qu'il y a
parce
cœur dans le titre.
Pas de pervers, voilà.
C'est je trouve, un joli livre que j'aurais plaisir à offrir si ce n'était pas
forcément
le mien.
Forcément, c'est le titre.
Voilà.
Alors, on retrouvera tout ça à la fin de l'événement, où vous pourrez aller leur parler et voir ce qu'elles font. Julia, c'est CD, ben oui, nouvel album.
Oui, je vous l'ai amené, ça fait quelques jours que je l'ai, donc voilà. Vous viendrez me voir à la fin, on fera... ce que vous voulez, enfin des dédicaces, je veux dire. On le mettra, oui, un peu plus tard. Bah, écoutez, voilà, c'est Dr. Love, c'est donc le nouvel album, et on en discutera. Après, les autres choses, moi j'écris nouvellement dans Wild, donc Wild Magazine, il y a le deuxième numéro qui sort demain. Si vous ne connaissez pas cette revue, c'est vraiment une revue qui parle de sexualité de manière légère et décomplexée, je vous la recommande. Surtout que demain sort ma chronique sur Séville, alors là... Vous allez voir Séville dans notre œil, je vous le dis. Et, ok, voilà.
Merci beaucoup les filles, on peut les
Merci
applaudir
à vous.
Trop fort. Merci.